Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent ici pour la première fois ou qui viennent depuis pas très longtemps. Et merci aux musiciens, merci à Boris de nous avoir conduits dans nos moments de louange pour notre Seigneur. Ce matin, nous allons reprendre, continuer notre étude du livre des Nombres. Nous avions étudié l'année dernière, à peu près à la même époque, le livre de l'Exode. Et nous avions vu que Moïse avait été l'instrument utilisé par Dieu pour faire sortir son peuple d'Égypte. On se souvient des 10 plaies avec lesquelles le Seigneur avait frappé l'Égypte, et notamment la 10e de ces plaies, où une vague de mort avait balayé l'Égypte et avait tué tous les premiers-nés des Égyptiens, sans faire des exceptions. Et où le seul moyen de se protéger de ce fléau était de recouvrir les linteaux des maisons avec le sang d'un agneau sans défaut. Nous avions dit à ce moment-là que cet esclavage en Égypte nous parle aujourd'hui de façon allégorique de l'esclavage du péché dont nous avons été libérés par notre agneau sans défaut, notre agneau parfait, Jésus-Christ. Que le seul moyen d'être libéré du péché et de la mort est de prendre la décision, de faire le choix que Jésus-Christ soit mort à notre place. Et cela, pour chacun d'entre nous, c'est une décision que chacun d'entre nous doit prendre. Et personne ne peut prendre cette décision à notre place. Le peuple est donc sorti d'Égypte, et puis il est arrivé en face de la mer Rouge, avec les armées du Pharaon derrière, qui arrivaient sur eux pour les faire périr. Et on peut imaginer qu'à ce moment-là, eh bien, le peuple ne devait pas être très rassuré. Peut-être certains, un petit nombre d'entre eux, avaient confiance en l'Éternel face à cette situation. Mais la plupart d'entre eux devaient se dire que c'était la fin. La mer d'un côté, l'armée du Pharaon de l'autre. Cette armée avec ses chars de guerre en face de laquelle le peuple devait se sentir petit comme des sauterelles. Mais le Seigneur avait mis cette situation pour qu'ils apprennent à lui faire confiance. Que de la même façon que ce n'était pas eux, de par leur propre force, qui étaient sortis d'Égypte, mais que c'était lui, le Seigneur, qui les avait fait sortir d'Égypte par sa main puissante, eux qui étaient incapables de se sortir par leur propre force, c'était également lui, l'Éternel, qui les sortirait de cette situation en face de la mer Rouge. Qu'il allait habiter au milieu d'eux, au milieu de leur camp, comme nous l'a raconté le pasteur Samuel il y a quelques semaines. Et qu'il allait les diriger lui-même par sa présence, sous forme d'une colonne de fumée pendant le jour et d'une colonne de feu pendant la nuit. Il est également intéressant de remarquer que le Seigneur ne les a pas fait passer par le trajet le plus direct. Il les a fait aller vers le mont Horeb, dans le désert de Sin, au sud, pour ensuite les faire remonter vers le désert de Paran, au nord. Et le Seigneur a fait tout cela pour leur apprendre à lui faire confiance, pour leur apprendre à marcher par la foi. Il leur a également donné, on s'en souvient, la manne dans le désert. Et là encore, le peuple ne devait pas en prendre pour le lendemain, pour qu'ils apprennent à faire confiance à l'Éternel pour leur nourriture quotidienne. Et l'Éternel a toujours pourvu. Dans ces quelques mois de marche depuis l'Égypte jusqu'à Kadès, dans le désert de Paran, l'Éternel a tout fait pour leur apprendre à lui faire confiance, pour leur apprendre à avoir la foi en lui. Et il a fait cela afin que, lorsqu'ils arriveraient enfin devant la terre promise, ils soient prêts à pleinement s'en saisir par la foi, en comptant sur Dieu. Eh bien, justement, ce matin, nous arrivons au chapitre 13 et 14 du livre des Nombres, qui représentent justement ce moment crucial pour cette génération dans le désert. Ce moment où ils vont devoir faire ce choix. Soit rentrer dans le pays promis, et s'en saisir par les et se saisir des promesses de Dieu, de vivre la vie de victoire que l'Éternel veut pour eux, cette vie abondante pour laquelle il les a libérés de l'esclavage, de vivre une vie de foi qui glorifiera celui qui les a libérés, ou alors de vivre une vie de peur, en comptant sur leurs propres forces, ces propres forces qui ne sont pas très impressionnantes, de ne pas entrer dans le pays promis, de ne pas se saisir des promesses de Dieu pour eux. Alors lisons notre texte et voyons ce que le peuple va choisir. Je prends la lecture en Nombre, chapitre 13. Je vais lire les versets 1 et 2, et ensuite je passerai au verset 25. Et nous continuerons jusqu'au verset 25 du chapitre 14. Nombre, chapitre 13, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » Je continue au verset 25. « Ils furent de retour, » donc les explorateurs, ces hommes qu'il avait envoyés, « ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membre de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. » Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre, devant tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens ont appris que tu as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance. Et ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. » Si tu fais mourir ce peuple d'un seul coup, les nations qui ont entendu parler de toi diront « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de conduire ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a exterminé dans le désert. » Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa gloire, conformément à ce que tu as déclaré, L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne la faute de ce peuple, conformément à la grandeur de ta bonté, tout comme tu lui as pardonné depuis l'Égypte jusqu'ici. L'Éternel dit : Je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer des roseaux. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ce matin, nous allons voir eh bien, que tout ça, c'est une question de choix. Nous verrons premièrement que le choix que va faire le peuple, et dans un deuxième temps, nous verrons quel choix nous allons faire. Dans les premiers versets du chapitre 13, on voit que l'Éternel demande à Moïse d'envoyer 12 hommes pour explorer le pays, ce pays pour lequel ils ont fait tout ce chemin. L'Éternel, lui, sait parfaitement de quoi est fait ce pays. Il sait exactement quels fruits y poussent et quels sont les habitants qui y vivent. Et il n'envoie pas ses espions pour déterminer s'ils seront capables ou non d'en prendre la possession. Il les envoie pour que le peuple soit au courant de ce qui les attend. Il veut que lorsqu'ils entreront, ils sachent parfaitement à qui ils auront affaire. L'Éternel veut qu'ils constatent que ce pays est bon, que c'est un pays où coule le lait et le miel. Il veut qu'ils le sachent. Mais il veut également qu'ils sachent que les habitants qui y vivent, les habitants qui habitent ce pays, sont plus forts qu'eux et que le peuple ne pourra jamais prendre possession du pays par leur propre force. L'Éternel veut que le pays avance, que le peuple, pardon, avance par la foi. Pour leur sortie d'Égypte et pendant tout leur voyage, le peuple n'avait pas vraiment le choix. Ils étaient obligés de faire confiance à l'Éternel. S'ils n'avaient pas eu les 10 plaies en Égypte, eh bien, ils ne seraient jamais sortis. Si, lorsqu'ils étaient en face de la mer Rouge, l'Éternel n'avait pas pourvu de façon miraculeuse, et si la mer ne s'était pas ouverte devant eux, eh bien, ils seraient tous morts de la main des Égyptiens. Si dans le désert, ils n'avaient pas pourvu avec la manne, eh bien, ils seraient tous morts de faim. Mais cette fois, c'est un peu différent. Le peuple n'est pas contraint d'entrer dans la terre promise. Le peuple n'est pas contraint de s'appuyer sur la force de l'Éternel. Le Seigneur, bien sûr, est avec eux, et ils le savent, ou du moins, ils auraient dû le savoir. Le Seigneur veut qu'ils rentrent dans ce pays. C'est pour ça qu'il les a fait sortir d'Égypte. Mais maintenant, le Seigneur veut que le peuple lui fasse confiance. Il veut que le peuple choisisse, par la foi, d'entrer dans la terre promise, en comptant sur lui. Alors, les 12 princes partent pour explorer le pays. Ils récoltent du raisin, des grenades et des figues, des fruits tellement merveilleux que c'est difficile à y croire. Ils ont besoin de s'y mettre à 2 pour porter une seule grappe de raisin. Cette grappe de raisin qui est encore aujourd'hui un symbole en Israël. Ils reviennent donc après 40 jours d'exploration et font leur rapport devant Moïse et Aaron et devant le peuple. Et ce rapport se compose essentiellement de 2 constats. Le premier constat, c'est que l'Éternel ne leur a pas menti. Il a été fidèle, comme on pouvait s'y attendre. Que le pays est vraiment un pays merveilleux. Au verset 27, ils disent... C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Mais le deuxième constat, c'est que le pays est habité par des gens très forts, beaucoup plus forts qu'eux, des géants. Et face à ces deux constats, nous voyons deux attitudes radicalement différentes. Le peuple commence alors à murmurer, et deux des princes, Caleb et Josué, ceux qui font un bon rapport du pays, font taire le peuple et ils disent « Montons, emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. » Un peu plus loin, au verset 8 du chapitre 14, il est écrit, ils disent « Si l'Éternel est avec nous, il nous donnera ce pays et nous y conduira. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur de ses habitants. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. » Voici la clé. L'Éternel est avec nous. Alors comment ne nous donnera-t-il pas ce pays jusqu'auquel il nous a amenés, même si nous avons peur? Il a été fidèle dans tout ce qu'il a fait pour eux jusqu'à ce jour. Il leur a pardonné lorsqu'ils n'étaient pas fidèles envers lui, lorsqu'ils l'ont provoqué, lorsqu'ils ont murmuré contre lui dans le désert, 10 fois. Mais les 10 princes ont une autre perspective que celle de Josué et Caleb. Ils voient les choses d'un point de vue tout à fait différent. Et ils disent au verset 31, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Au verset 33, ils disent, « Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. » Il est étrange de voir combien, face à la première difficulté, l'homme est prompt à oublier 1000 bénédictions que le Seigneur lui a offertes. De voir combien l'homme est prêt, face à l'épreuve, face à la tentation, de détourner sa confiance de l'Éternel pour la placer en autre chose. Ici, les 10 espions, les 10 mauvais explorateurs qui dénigrent le pays que l'Éternel leur a donné, ont placé leur confiance non pas en eux, mais en ces géants. Ces géants qui ne sont autres que des gens de très grande taille, des sortes, aujourd'hui ce serait des joueurs de NBA ou quelque chose comme ça. Dans cette situation de détresse, où ils doivent faire un choix, rentrer dans le pays promis ou rester dans le désert, ils se voient, eux, comme des sauterelles face à des géants, mais ils ont perdu de vue leur Dieu. Alors que Josué et Caleb, eux, ils voient plus loin. Ils n'ont pas la même perspective. Tout est une question de perspective. Ils se voient, eux, certes, comme moins forts que ces géants, mais ils n'ont pas perdu de vue leur Dieu qui est avec eux et qui est pour eux et qui est plus grand, lui, que n'importe lequel des géants de ce monde. L'Éternel ne veut pas que son peuple compte sur ses propres forces. L'Éternel veut que son peuple lui fasse confiance et qu'il avance par la foi. Et c'est pour cela que bien souvent aussi, dans nos vies à nous, il placera des situations qui nous paraissent impossibles à affronter pour que nous lui fassions confiance, pour que nous avancions par la foi. L'histoire de Moïse est un très bon exemple de cela. Lorsque Moïse avait 40 ans, qu'il était dans la force de l'âge et qu'il était prince en Égypte, on se souvient qu'il avait essayé de libérer un seul Hébreu, un seul membre de son peuple, et qu'il avait lamentablement échoué, qu'il avait été humilié et qu'il avait été contraint de fuir dans le désert. Et que lorsqu'il avait 80 ans, qu'il n'était plus dans la force de l'âge, mais vieux, qu'il n'était plus prince égyptien, mais gardien du troupeau de son beau-père, l'Éternel lui est apparu dans le buisson ardent et lui a dit « Maintenant, c'est le moment où je te renvoie en Égypte, non pas pour libérer un Hébreu, mais pour en libérer des millions. » Moïse a lui aussi, à ce moment-là, eu du mal à repartir vers l'Égypte, car il se disait « Mais c'est impossible !» Mais l'Éternel l'a réconforté. Il lui a répondu que ce n'était pas lui, Moïse, qui allait libérer son peuple, mais que c'était lui, l'Éternel, qui s'apprêtait à le faire. Et ici, dans notre texte ce matin, c'est ce que le peuple aurait dû comprendre. Ce n'était pas eux qui partaient à la conquête de la terre promise seuls par leur propre force, mais que c'était l'Éternel qui était avec eux et qui simplement le leur donnait. Comme le disent Caleb et Josué au verset 8 du chapitre 14. Et effectivement, le Seigneur leur avait préparé le chemin. C'est intéressant de voir à la fin du chapitre 13, les 10 mauvais espions ont peur de rentrer dans le pays. Ils disent qu'ils étaient des sauterelles à leurs propres yeux et qu'ils étaient également des sauterelles aux yeux des habitants de ce pays. Mais c'est faux. C'est la peur qui leur fait dire ça, car le Seigneur avait préparé d'avance les cœurs de ces peuples qu'ils allaient affronter. Et on apprend cela, en fait, 40 ans plus tard, lorsque Josué va envoyer des espions dans Jéricho, chez Rahab. Je lis ce qui est écrit dans Josué au chapitre 2, des versets 8 à 10. Je fais la lecture. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: Je sais, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux. Voyez, les 10 espions avaient oublié que l'Éternel était avec eux. Et à leurs propres yeux, effectivement, ils étaient comme des sauterelles face à ces géants. Mais les habitants du pays promis, eux, ne voyaient absolument pas la chose de la même façon. Ils ne les voyaient pas, eux, comme des sauterelles. Ils se voyaient, eux, comme des sauterelles. Et ils étaient terrorisés par ces juifs, par ce peuple qui arrivait. Ils étaient terrorisés, non pas par eux-mêmes, mais ils étaient terrorisés parce qu'ils savaient que l'Éternel était avec eux. Ce Dieu si grand, ce Dieu qui avait déplacé des millions de mètres cubes d'eau lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte et lorsqu'ils avaient fendu la mer. Et que face à ce Dieu-là, ils n'auraient aucune chance de pouvoir leur résister. Exactement comme le disent Caleb et Josué. Si l'Éternel est avec nous, n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ce n'est pas un pays qui dévore ses habitants, c'est un pays qui sera dévoré par les Juifs, par le peuple. Mais le peuple a peur. Il a peur, alors il écoute les 10 mauvais espions et ne vont pas écouter Josué et Caleb. Et puis, ils veulent retourner vers l'Égypte. Ils parlent de se choisir un chef qui les mènera en Égypte. Ils ont perdu tout leur bon sens. Ils ont fait tout ce chemin. Ils ont vu la main de l'Éternel tant et tant de fois en leur faveur. Et maintenant, il leur semble bon de retourner en Égypte. Ils parlent de l'Égypte comme si c'était la liberté pour eux, alors que c'est tout le contraire, c'est l'esclavage. Mais à ce moment-là, ça leur paraît plus facile. Alors ils ont fait leur choix. Cette génération ne rentrera pas dans la terre promise. J'ai dit dans mon introduction que la sortie d'Égypte est une façon allégorique de nous parler à nous de la libération du vrai esclavage, qui est l'esclavage du péché. Cette libération nous a été acquise une fois pour toutes. Nous avons été justifiés, nous avons été acquittés, nous avons été libérés par le sang de Jésus-Christ à la croix. Et ici, le fait de rentrer ou de ne pas rentrer dans le pays de Canaan représente, de façon allégorique pour nous aujourd'hui, le fait de se saisir dès maintenant des promesses de Dieu, de nous saisir en quelque sorte des premiers fruits de l'éternité avec Dieu. Mais parfois, ce n'est pas facile. Et nous préférons ce que le monde a à nous offrir plutôt que les promesses de Dieu. Alors, nous ne faisons pas la volonté de Dieu et nous vivons des petites vies, des vies dans le désert. Certes, nous avons été couverts par le sang de l'agneau, nous avons été libérés de l'esclavage du péché, mais nous avons du mal à affronter les géants de nos vies. La convoitise, l'immoralité sexuelle, la soif de posséder, les médisances, le mensonge, etc. Et nous préférons écouter notre chair, le monde et le diable, qui nous encourage à de telles choses. Nous préférons revenir vers notre Égypte. Bien qu'étant libres à l'égard de ces choses, par le sang de Christ, nous préférons revenir sous l'esclavage du péché. Alors que tout ce que nous avons à faire, pour ne faire qu'une bouchée de ces géants-là, c'est de fixer nos regards sur cette éternité avec Christ. Cette éternité qui, d'une certaine manière, a déjà commencé. Cette éternité avec Christ et en Christ a commencé pour nous à partir du moment où nous avons dit oui à Jésus, où nous avons accepté son sacrifice pour nos vies. Ce moment où nous sommes devenus enfants de Dieu. Je dis que cette éternité a commencé d'une certaine manière pour nous, car nous sommes encore revêtus de notre chair corruptible et mortelle. Mais c'est comme si, dès maintenant, en Christ, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, nous sommes déjà ressuscités et assis avec Christ dans les lieux célestes. Et cette réalité d'être assis dans les lieux célestes, c'est notre espérance. Et cette espérance, bien qu'elle nous parle de choses que l'on ne voit pas encore, eh bien, elle est certaine. Elle ne ment pas, et c'est par la foi que l'on s'en saisit. Dans le désert, le peuple aurait dû faire confiance en l'Éternel. Il leur avait montré tant et tant de fois sa main puissante. Ils ont fait le choix de ne pas se saisir des promesses de Dieu, de rester dans le désert et d'y mourir. Et l'Éternel leur donne simplement ce qu'ils ont demandé. Et à cause de leur manque de foi, ils vont vivre une petite vie, une vie dépourvue de victoire, une vie où ils vont tourner en rond pendant 40 ans dans le désert et où ils y mourront, sans faire de progrès. Aujourd'hui, nous avons quelque chose que le peuple hébreu à ce moment-là n'avait pas. Nous avons l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et cet Esprit atteste que notre espérance est vivante. Cet Esprit atteste que nous sommes bel et bien déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Il est notre garantie, notre gage que nous sommes aujourd'hui avec Christ. Et nous ne devons surtout pas faire taire cet Esprit qui vit en nous. Ce qui s'est passé aux États-Unis à la fin du 19e siècle, après l'abolition de l'esclavage, peut nous aider à comprendre cette tendance que l'on peut avoir à revenir aux choses anciennes. En 1865, à la fin de la guerre de sécession, l'esclavage a été aboli aux États-Unis. C'est-à-dire qu'une loi est passée et officiellement, tous les esclaves d'origine africaine, en un instant, avec la signature de cette loi, sont devenus libres. Ils ont été affranchis, ils ont été libérés. On pourrait dire qu'ils sont sortis de leur Égypte à eux. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas encore vivre un homme libre. Ils avaient passé toute leur vie au service de quelqu'un d'autre. Et maintenant, pour la première fois, beaucoup d'entre eux avaient la liberté en face d'eux. Et c'était quelque chose d'inconnu, quelque chose qui leur faisait peur. Alors, bien qu'étant légalement libres à l'égard de leurs anciens maîtres, comme nous le sommes nous aussi aujourd'hui à l'égard du péché, beaucoup d'entre eux ont choisi de revenir vers leurs anciens maîtres et de se replacer volontairement sous l'esclavage. Ces gens-là ont choisi de vivre une vie d'esclave, tout en étant réellement libres. Tout ça parce que c'était plus confortable pour eux, parce qu'ils ne gardaient pas les yeux fixés sur cette liberté et parce qu'ils ne voulaient pas changer vraiment. Les derniers versets du chapitre 13 de l'Épître aux Romains sont vraiment des versets que j'aime énormément et qui, je pense, représentent pour nous d'une certaine manière ce que veut dire le fait d'entrer dans cette terre promise. Je vous lis Romains 13, à partir du verset 11. Vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant, le salut est plus proche de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ces convoitises. Le verset nous dit, la nuit est bien avancée, le jour approche. C'est ce moment juste avant l'aube. Il fait encore nuit, mais ce n'est pas le moment d'aller se coucher. Et bien que les choses visibles nous montrent qu'il fait encore sombre, nous montrent que c'est encore tout noir, nous devons vivre comme en plein jour. Frères et sœurs, il existe deux sortes de chrétiens. Le chrétien qui se focalise sur les réalités visibles de ce monde, qui vit une vie mondaine et qui, à beaucoup d'égards, une vie qui ressemble à celle des non-croyants et qui ne ressemble pas à la vie de quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui vit en Christ. Ce chrétien ne pense pas souvent au fait qu'il va passer l'éternité avec Christ, ou du moins cette réalité n'influence pas son comportement, n'influence pas sa façon de vivre. Cette personne est bel et bien chrétienne. Il est sorti de l'esclavage du péché, il a été affranchi par le sang de Christ, mais il continue de vivre sa vie dans le monde, comme s'il ne s'était rien passé pour lui. Il dort comme si c'était le beau milieu de la nuit, et il ne voit pas le jour arriver. Il ne se saisit pas des promesses de Christ pour sa vie maintenant. Il ne se saisit pas des fruits du pays promis parce qu'il voit les géants auxquels il faudrait qu'il fasse face et il compte sur ses propres forces. Il oublie de voir l'Éternel à ses côtés et il n'a pas envie d'affronter ces géants. Il pourrait les affronter. Dieu est avec lui. Et bien que sa logique toute humaine lui dise que c'est impossible, l'Esprit de Christ qui vit en lui lui dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Mais il ne veut pas écouter l'Esprit de Christ. Alors il le fait taire. Et il l'attriste. L'autre sorte de chrétien, c'est le chrétien qui garde les yeux fixés sur les choses invisibles, sur l'éternité qu'il va passer avec Christ. Ce chrétien ne se conforme pas au monde, au contraire, il contraste avec le monde. Il vit comme en plein jour, bien que tout indique que c'est encore la nuit. Il ne vit pas à la manière des gens de ce monde, car il n'a pas le même but qu'eux. Il voit la cité céleste devant lui, il ne la perd jamais de vue et il marche fidèlement sur ce chemin de pèlerin que le Seigneur a placé devant lui. La semaine dernière, le pasteur Samuel nous a parlé de Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison à Philippe, dans la ville de Philippe. Et bien qu'ayant été frappé, bien qu'ayant été battu, bien qu'épuisé, bien qu'ayant les chaînes aux pieds, ils n'étaient pas en train de se lamenter sur leur sort, mais ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Tout est une question de point de vue. Tout est une question de perspective. Paul et Silas ne se focalisaient pas sur la réalité visible, cette réalité terrestre de leurs conditions passagères, mais ils se focalisaient sur la réalité invisible que le jour approche et qu'en Christ, ils sont déjà assis dans les lieux célestes avec lui. Et ils sont dans la joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances de ce monde, mais qui est entièrement basée sur le fait que leur nom est inscrit dans le ciel. La réalité est que, bien souvent, nous nous situons entre ces deux types de chrétiens. Le prédicateur britannique Charles Spurgeon a écrit à ce propos ce qu'il a appelé la rivière de l'expérience des bénédictions célestes. La rivière de l'expérience des bénédictions célestes. Voici ce qu'il écrit. La plupart des chrétiens, en ce qui concerne la rivière de l'expérience, ne vont pas plus loin que les chevilles. Quelques-uns la trouvent jusqu'aux genoux. Quelques-uns encore, et beaucoup moins, peuvent y patauger jusqu'à la ceinture. Mais combien rares sont ceux qui trouvent cette rivière par-dessus leur tête ? Cette rivière dont ils ne peuvent pas toucher le fond. Si nous voulons voir cette rivière des bénédictions célestes nous submerger, nous aussi, comme elle avait submergé Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison, nous devons apprendre chaque jour à toujours mieux voir Jésus-Christ comme notre plus grand bien. Nous devons apprendre chaque jour à revenir à notre bon sens, à nous souvenir de toutes les bénédictions que le Seigneur a déjà placées dans nos vies. Nous devons apprendre à garder les yeux fixés sur l'éternité, à marcher en nouveauté de vie, en obéissant aux vérités invisibles. À ne plus obéir à ce que désire notre chair, mais à nous laisser transformer par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et pour cela, nous devons obéir à sa parole. Mais le Seigneur ne nous y obligera jamais. Tout comme le peuple devait choisir de se saisir ou de ne pas se saisir du pays promis, nous devons également choisir de nous saisir ou de ne pas nous saisir des promesses de Dieu en Christ. Et ceci est et restera toujours notre choix. Alors faisons le bon choix. Prions. Notre Père, notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur la terre, alors que nous étions esclaves du péché, que nous étions incapables de faire quoi que ce soit pour nous sortir de cet esclavage. Tu l'as donné et tu nous as libérés gratuitement. Nous avons été justifiés en toi, Seigneur. Seigneur, maintenant, tu es avec nous. Tu nous donnes ta foi, comme tu le dis dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8-9. Tu nous donnes ta foi gratuitement et tu nous encourages à te choisir toi. Tu nous encourages à marcher par nos propres forces. Tu nous encourages, Seigneur, à ne plus nous nourrir juste de lait, mais à prendre une nourriture solide. Seigneur, apprends-nous à faire les bons choix, à te choisir toi, à nous voir déjà assis avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, tu as été fidèle envers nous. Apprends-nous à grandir. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à te choisir toi et à délaisser les choses de ce monde. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce en Jésus-Christ et nous te remercions parce que si maintenant nous pouvons te choisir toi, eh bien c'est encore une grâce de ta part. Seigneur, on te remercie pour chacun d'entre nous et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ici présents ce matin. Je te prie que tu puisses nous donner de toujours regarder à toi, de toujours nous apprendre à marcher sur le chemin que tu places en face de nous et à se saisir de tes promesses par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.